VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Claire Morin-Gibourg et Chérubin Dorcil, bienvenue à l'édition du mardi 29 septembre 2015, au sommaire ce soir. Burkina Faso, situation très tendue dans la capitale après les avertissements de l'armée loyaliste, laissant présager un assaut imminent contre les putschistes. Nous ferons le point sur cette situation. RCA, la présidente de la transition, abandonne l'Assemblée générale de l'ONU pour retourner en toute hâte à Bangui, une capitale en proie à des violences intercommunautaires. Parlant de l'Assemblée générale, on fera le point sur les derniers développements avec notre envoyée spéciale, Tatiana Mosso.
C'est une deuxième journée au programme moins chargé, moins de sirènes et de cortèges aux voitures blindées noires dans les rues de New York. Cependant, des réunions au plus haut niveau continuent de se tenir.
En Afghanistan, les revers de l'armée afghane dans la ville stratégique de Kunduz entraînent de nouvelles frappes de l'aviation américaine contre les talibans. Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Burkina Faso, les forces armées ont mis en place un assaut contre le général Gilbert Diendéré et l'ex-garde présidentiel de Blaise Compaoré. VOA Afrique a joint le général Diendéré lui-même. On l'écoute au micro d'Idriss Fall.
J'ai lancé un appel aux troupes du RSP pour leur demander de réintégrer la caserne parce que depuis ce matin, compte tenu des incidents qu'il y a eu au centre-ville, dans leur caserne du centre-ville, ceux qui étaient à Caen, à Ouagadougou, sont sortis avec leurs armes et ont voulu faire une résistance. Et donc, j'ai demandé tout simplement à ce que ces éléments puissent revenir en caserne, déposer leurs armes pour éviter l'affrontement que nous n'avions pas souhaité.
Mais quand même, il y a eu des blocages pour le désarmement, non?
Oui, il y a eu des blocages compte tenu de certaines raisons qui ont été évoquées. Mais nous avons estimé qu'il fallait qu'il y ait un apaisement, que les éléments puissent revenir pour déposer leurs armes.
Mais est-ce à dire que Gilbert Diendéré ne maîtrise plus cette troupes?
Non, les troupes là ne sont pas les troupes de Gilbert Diendéré. Il y a un chef de corps du RSC qui est là, celui qui gère ses troupes. Gilbert Diendéré était un ancien du corps et a dirigé ce corps il y a longtemps, mais servait également un peu de conseiller et de personne ressource vers laquelle les éléments du RSC se tournaient lorsqu'ils avaient un problème particulier.
Est-ce que vous reconnaissez que le gouvernement a dissous le RSP?
Ben oui, il y a eu un décret de dissolution qui a été prononcé il y a quelques jours. Il y a eu des notes d'affectation qui ont été signées déjà. Bon, c'était contre tout cela que les éléments du RSC voulaient s'entendre. Parce que pour ces éléments, toutes ces mesures-là devaient être prises à l'issue d'une concertation qui avait été prévue par la CEDEAO. Malheureusement, cette concertation n'a pas eu lieu et les mesures ont été déjà prises à ce qui leur brillait un mécontentement à leur niveau.
Maintenant, est-ce que vous-même, vous allez vous rendre?
Je pense que je vais me mettre à la disposition de la justice de mon pays. Je crois que cela est absolument nécessaire. Je ne compte pas me soustraire à la justice de mon pays.
Mais aujourd'hui, est-ce que vous allez vous rendre à l'armée, par exemple?
Je verrai les conditions dans lesquelles cela va être fait, mais je vous dis que je ne vais pas me soustraire. Je ne vais pas me soustraire à la justice de mon pays.
Le général Gilbert Diendéré, joint à Ouagadougou, il répondait aux questions d'Idriss Fall.
En République centrafricaine, Bangui est toujours en proie aux violences intercommunautaires. Ce mardi était plutôt calme, malgré des tirs à l'arme lourde et légère entendus dans les quartiers nord. Le point avec notre correspondant Freeman Sipila.
Contrairement à ces dernières 72 heures, la capitale centrafricaine a été calme aujourd'hui, malgré la persistance des barricades. Aucun affrontement n'a été rapporté dans les zones affectées ces derniers jours par les violences. De nombreuses scènes de pillage des locaux des organisations humanitaires ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans les 1er et 5e arrondissements. Les nombreux appels au calme, dont celui de la présidente de la transition depuis New York, semblent tomber dans l'oreille du sourd, car sur le terrain, la réalité des faits démontre le contraire. Jusqu'en début d'après-midi, la MINUSCA a renforcé son dispositif dans la ville. Des casques bleus ont été déployés au sol afin de démanteler les barricades pour faciliter le retour au pays de la présidente Catherine Samba-Panza. Mission très compliquée dans les quartiers nord où des accrochages ont été régulièrement enregistrés entre forces onusiennes et hommes armés. Dans une déclaration ce matin, le porte-parole du gouvernement a indiqué que certains officiers de l'armée nationale bien connus ont voulu profiter de la situation pour déstabiliser la transition. Le grand jour à craindre est ce mercredi 30 septembre, jour de rassemblement populaire de la société civile pour exiger le redéploiement des forces armées centrafricaines et l'application du mandat de la MINUSCA. Ces violences déclenchées le samedi 26 septembre ont déjà fait plus de 60 morts et plus d'une centaine de blessés. Freeman Sipila Bongi, VOA Afrique.
Et en République démocratique du Congo, on apprend que le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, a démissionné du parti présidentiel. Nous n'avons pas plus de détails pour le moment, mais certainement c'est un point sur lequel on reviendra prochainement.
Enquête des biens mal acquis en France. Les juges en charge de l'enquête ont saisi plusieurs propriétés, notamment une luxueuse demeure près de Paris, soupçonnant un neveu du président congolais Denis Sassou Nguesso d'en être le véritable propriétaire. C'est ce qu'a appris l'AFP de sources proches du dossier.
Le procès pour subornation de témoins de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba et quatre de ses proches s'est ouvert aujourd'hui devant la Cour pénale internationale. Jean-Pierre Bemba est accusé d'avoir pensé et coordonné un plan depuis sa cellule de la haie pour corrompre financièrement 14 témoins avec l'aide de 4 co-accusés. Le but était d'obtenir son acquittement dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés en Centrafrique.
Nouveau braquage en République démocratique du Congo. Des malfaiteurs ont mis la main aujourd'hui sur plus de 40 000 dollars lors d'un hold-up dans le centre de Lubumbashi au surlendemain d'une attaque contre un convoi de fonds ayant fait 13 morts.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé les dirigeants sud-soudanais rivaux à ne pas trahir ni décevoir l'ONU après que le président Salva Kiir eut promis d'appliquer un accord de paix. L'accord du 29 août au Soudan du Sud est censé mettre fin à 21 mois de conflit.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Sommet sur le terrorisme mondial en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président américain Barack Obama a de nouveau réclamé ce mardi le départ du président syrien Bachar al-Assad pour vaincre les djihadistes de l'État islamique. La Russie, qui insiste au contraire pour maintenir Assad au pouvoir afin de combattre Daesh, n'a envoyé qu'un diplomate à ce sommet. Monsieur Obama avait convoqué cette réunion pour remobiliser ses troupes, souligne l'AFP, un an après le lancement de la coalition militaire contre les djihadistes, à laquelle participent une soixantaine de pays.
Alors, pour des détails sur l'Assemblée générale qui se déroule à New York, nous avons sur place notre envoyée spéciale Tatiana Mousseau. Comment s'est passée la journée d'aujourd'hui, Tatiana ?
Alors, moins de sirènes et de cortèges qu'hier, moins de voitures blindées noires dans les rues de New York. Cependant, des réunions au plus haut niveau, vous l'avez dit, continuent de se tenir dans la matinée, réunies autour de Barack Obama et de Ban Ki-moon, le président nigérian et le premier ministre irakien, pour une discussion sur les violences extrémistes devant un parterre de chefs d'État, vous l'avez précisé, 60. L'occasion donc de parler en longueur des menaces terroristes, notamment en Afrique avec Boko Haram. Au deuxième jour de cette 70e Assemblée générale, les sujets africains restent timidement abordés. Toutefois, les interventions des leaders africains ont été moins suivies, étant donné qu'elles étaient très tard hier soir. Elles se poursuivaient toutefois ce matin, mais dans une relative discrétion. Certains chefs d'État ont déjà quitté New York, comme la centrafricaine Catherine Samba-Panza, rentrée en urgence, ou encore le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, reparti pour le Mali. L'un des grands absents, Alassane Ouattara, le président ivoirien en pleine campagne électorale pour un second mandat présidentiel. Pourtant, les dossiers chauds sur le continent africain ne manquent pas. La question du terrorisme, les crises politiques du Burundi, Burkina Faso, du Soudan du Sud ou encore de la Centrafrique où l'escalade de la violence est plus que jamais importante. Il restera enfin une journée à la communauté internationale réunie sous les drapeaux de la Cour des Nations Unies ici pour se pencher aussi sérieusement sur le sort des pays où la société civile semble en pleine mutation, comme on observe par exemple au Congo-Brazzaville ces derniers jours.
Merci Tatiana. En Afghanistan, les forces gouvernementales soutenues par l'aviation américaine ont tenté aujourd'hui de reprendre aux talibans le contrôle de Kunduz, la cinquième plus grande ville du pays, au lendemain de sa prise surprise par les rebelles. Les talibans, eux, veulent appliquer la loi islamiste. Lionel Gaïma.
La prise de Kunduz est la victoire la plus importante des talibans en près de 14 ans de rébellion. La facilité avec laquelle les rebelles se sont emparés de la ville jette une lumière crue sur les limites de forces gouvernementales qui les combattent seules sur le terrain depuis le retrait à la fin 2014 de troupes de combat de l'OTAN. Les talibans paradent dans Kunduz à bord de 4x4 volés, scandant « Allahu Akbar » et appelant les habitants de la ville à la soumission et à la délation.
Je demande à chacun d'entre vous d'aider les Moudjahidines à dénoncer les traîtres et les hypocrites et ceux qui se comportent mal envers le peuple.
Même temporaire, la prise de Kunduz assure aux talibans un ralentissement international qui pourrait permettre à leur nouveau chef d'asseoir sa légitimité. Les talibans ont ainsi publié une vidéo de 10 minutes sur les réseaux sociaux pour mettre en scène leur victoire, vidéo où les insurgés assurent qu'ils vont appliquer une interprétation stricte de la charia. Entre 1996 et 2001, lorsque les talibans ont dirigé l'Afghanistan, l'éducation et le travail des femmes étaient interdits, ainsi que la musique et les loisirs.
Au Yémen, le bilan d'une frappe aérienne dans le sud-ouest du pays est passé à au moins 130 morts, selon les sources médicales et onusiennes. La presse fait état d'une attaque contre un cortège nuptial, mais la coalition arabe luttant contre les rebelles chiites nie toute responsabilité. La crise persiste malgré une offensive de 6 mois visant à déloger les Houthis de Sanaa et d'autres régions du pays. Le président Mansour Hadi et son cabinet ministériel sont revenus à Aden, dans le sud, la semaine dernière, après 6 mois d'exil en Arabie Saoudite.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et sur voaafrique.com. Pour un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, nous cédons la place à Nathalie Barge.
La crise au Burkina Faso a coûté 50 milliards de francs CFA selon un communiqué publié à l'issue du Conseil des ministres lundi. Les pertes de recouvrement occasionnées pendant la période du putsch sont estimées à 11 milliards de francs CFA. Au niveau des recettes douanières, elles sont chiffrées à 9,7 milliards, rapporte l'AFP. Sur le plan de la trésorerie, les pertes directes s'élèvent à plus de 30 milliards de francs CFA selon le texte. Le Nigeria fournit 300 mégawatts au Togo, au Bénin et au Niger. La communauté électrique du Bénin, la SEB, a été conseillée par la Commission nigérienne de réglementation de l'électricité, la NERC, de se préparer à payer des taux commerciaux pour l'électricité qui lui est fournie par l'entreprise industrielle nigériane NESI. Le président de la NERC, Sam Amadi, a déclaré lundi que la réforme en cours dans l'industrie de l'électricité au Nigeria ne compromettra pas les relations internationales et les intérêts stratégiques du Nigeria. Une délégation de la SEB était au Nigeria pour connaître les effets de la privatisation des centrales restantes appartenant à l'État dans le cadre du projet national d'électricité intégrée. Askai, la compagnie aérienne africaine dotée du plus grand réseau en Afrique de l'Ouest et centrale, a enregistré une augmentation de 33% du nombre de passagers en août 2015 par rapport à la même période l'année dernière, rapporte l'APA. Askai dessert 22 villes dans 19 pays africains.
Merci Nathalie pour la Minute Éco.
Pour les sports, nous avons en studio Nicolas Pinos. Salut Nicolas.
Bonsoir chérie, on ne va pas parler frisbee, on va parler basket ce soir.
Afro-basket surtout, mais du genre féminin. À Yaoundé. Oui,
tout à fait, au Cameroun. Le Mali qui bat l'Ouganda 73-52. Beau succès des Lions du Sénégal qui battent les Égyptiennes 84-72. Victoire du Nigeria contre l'Algérie 79-49. Et la belle victoire de l'Angola face à la Guinée 89-47. À suivre ce soir, les rencontres Afrique du Sud et Gabon-Mozambique.
On fait le ménage à la FIFA, Nicolas.
Eh oui, la commission d'éthique de la FIFA a suspendu à vie Warner, le Trinidadien, homme clé du scandale de corruption autour du football mondial. Il a été suspendu de toute activité liée au football pour avoir proposé ou accepté des paiements illégaux. Autrement dit, chérubin des potes. On rappelle qu'il est âgé de 72 ans. C'est l'ancien patron de la CONCACAF et il est encore président de la Fédération des Caraïbes, en tout cas jusqu'à ce matin. Il est toujours sous le coup d'une demande d'extradition des États-Unis.
Oui, Jack Warner a été arrêté fin mai à Port d'Espagne. La Juventus de Turin sanctionne l'un de ses joueurs.
Eh oui, la champion d'Italie en titre a annoncé l'exclusion temporaire de l'équipe première de son défenseur Martin Caceres du fait de son comportement. En effet, il avait conduit un peu trop vite son bolide et surtout il était un peu éméché. Résultat, il est rentré dans un abri de bus.
Et quand on s'appelle Caceres et qu'on a de l'argent, c'est ce qui arrive parfois. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin, Gaby Dorcil et Claire Morin-Gibour en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Burkina Faso.
Vous l'avez entendu sur VOA Afrique ce soir. Je ne vais pas me soustraire à la justice de mon pays. Déclaration du général de brigade Gilbert Diendéré, l'auteur du coup d'État qui a échoué à Ouagadougou. On revient sur la situation dans la capitale burkinabé. Des tirs d'armes lourdes ont été entendus un peu plus tôt dans le quartier de Ouagadougou, où se situe le palais de Koussiam. L'armée loyaliste tentait de déloger le général Diendéré et les soldats qui lui sont restés fidèles. Le général a répondu aux questions d'Idriss Fall.
J'ai lancé un appel aux troupes du RSP pour leur demander de réintégrer la caserne parce que depuis ce matin, compte tenu des incidents qu'il y a eu au centre-ville, dans leur caserne du centre-ville, ceux qui étaient à Caen, à Ouagadougou, sont sortis avec leurs armes et ont voulu faire une résistance. Et donc, j'ai demandé tout simplement à ce que ces éléments puissent revenir en caserne, déposer leurs armes pour éviter l'affrontement que nous n'avions pas souhaité.
Mais quand même, il y a eu des blocages pour le désarmement, non?
Oui, il y a eu des blocages compte tenu de certaines raisons qui ont été évoquées. Mais nous avons estimé qu'il fallait qu'il y ait un apaisement, que les éléments puissent revenir pour déposer leurs armes.
Mais est-ce à dire que Gilbert Diendéré ne maîtrise plus ses troupes?
Non, les troupes là ne sont pas les troupes de Gilbert Diendéré. Il y a un chef de corps du RSP qui est là, celui qui gère ses troupes. Gilbert Diendéré était un ancien du corps et a dirigé ce corps il y a longtemps, mais servait également un peu de conseiller et de personne ressource vers laquelle les éléments du RSP se tournaient lorsqu'ils avaient un problème particulier.
Est-ce que vous reconnaissez que le gouvernement a dissous le RSP?
Ben oui, il y a eu un décret de dissolution qui a été prononcé il y a quelques jours. Il y a eu des notes d'affectation qui ont été signées déjà. Bon, c'était contre tout cela que les éléments du RSP voulaient s'en prendre. Parce que pour ces éléments, toutes ces mesures-là devaient être prises à l'issue d'une concertation qui avait été prévue par la CEDEAO. Malheureusement, cette concertation n'a pas eu lieu et les mesures ont été déjà prises à ce qui leur brillait un mécontentement à leur niveau.
Maintenant, est-ce que vous-même, vous allez vous rendre?
Je pense que je vais me mettre à la disposition de la justice de mon pays. Je crois que cela est absolument nécessaire. Je ne compte pas me soustraire à la justice de mon pays.
Mais aujourd'hui, est-ce que vous allez vous rendre à l'armée, par exemple?
Je verrai les conditions dans lesquelles cela va être fait, mais je vous dis que je ne vais pas me soustraire. Je ne vais pas me soustraire à la justice de mon pays.
Voici la grande déclaration faite sur VOA Afrique ce soir. Le général Gilbert Diendéré qui jette l'éponge. Nous avons sur place notre correspondant Issa Napon. Issa, comment se présente maintenant la situation dans les rues de Ouagadougou?
Oui, il faut dire que je suis à moins de 2 km du palais présidentiel de Douala, où me disent de nombreux riverains témoins des scènes qui se déroulent ici. Uniquement à l'arme lourde se font entendre un affrontement stratégique entre quelques rescapés de l'ex-RSP restés accrochés aux ordres du général Gilbert Diendéré qui, sur la voix d'une radio locale, expliquait jouer en ce moment un rôle de médiateur. Car dans l'après-midi, indique ces mêmes témoins, de nombreux soldats de ce régiment qui avaient accepté de se rendre se précipitaient hors de l'enceinte du camp Nabakom 2. Il faut dire qu'au tir de l'armée républicaine se font entendre de temps à autre des ripostes du dernier carré de fidèles du général Diendéré qui resteraient au palais présidentiel avec leur chef invraisemblablement décidé à lutter jusqu'au bout.
Donc la situation reste tendue. Comment voyez-vous ça sur le plan sécuritaire et surtout à Ouagadougou?
Oui, à Ouagadougou, il faut dire que la place est survolée par des avions et un hélicoptère, tout feu éteint. Et aux alentours, les gens circulent toujours parce qu'ils se sentent un peu en sécurité parce qu'ils ont vu passer des détachements de blindés, d'automitrailleuses. Ils savent que les choses risquent de se dérouler ce soir, mais ils veulent être témoins de ce qui va se passer. Donc, ils ne s'approchent pas trop près aussi du périmètre dangereux, mais ils restent aux abords pour voir comment les choses vont se passer.
Alors, Issa Napon, est-ce que les Ouagadougou savent que le général Diendéré a déclaré qu'il ne va pas se soustraire à la justice de son pays?
Ben, faut dire qu'en grande majorité, hein, ils le savent, mais tout ce qu'ils recherchent, c'est que à la parole, qu'à la parole suivent les actes. C'est ce qu'ils attendent un peu du général Gilbert Diendéré, parce que le peuple s'est toujours dit un peuple de pardon, et s'il dit jeter l'éponge, il faut qu'il se rende invraisemblablement à la justice afin que l'on sache qu'effectivement, il a tenté de résoudre le problème, il n'a pas pu, il se rend à la justice et attend de voir ce qui va se passer maintenant. Mais sinon, tout le monde attend qu'il rende les armes, qu'il se rende, et puis que nous voyons maintenant ce que la justice, ce que l'autorité de la transition vont décider.
Issa Napan, correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Violence meurtrière en Centrafrique. On a signalé des tirs sur la route de l'aéroport de la capitale ce mardi. Une situation tendue qui fait suite aux violences de ces derniers jours dans le pays. Elles auraient déjà fait au moins 60 morts selon la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Nicolas Pineau a joint son président Joseph Bindounimi.
Je ne peux pas vous dire exactement, je sais que je suis sur la route qui mène vers l'aéroport. La route avait été barricadée par les anti-Balaka. Et depuis 13h20-30, il y a eu des échanges nourris de feu. J'ai cru comprendre que c'était pour dégager les barricades qui étaient érigées sur la route. Mais apparemment, ça a l'air de non seulement durer, mais de s'enfoncer dans les quartiers comme s'il y avait des gens qui s'affrontaient à l'intérieur. Hein.
2 ans après le début de la transition, est-ce qu'on n'est pas revenu à la case départ en Centrafrique?
Apparemment, on est pratiquement revenu au point zéro, carrément par la faute de la communauté internationale. Toutes les propositions qui ont été faites dans les résolutions des Nations Unies tendant à neutraliser les groupes armés qui, à l'époque, n'étaient pas nombreux, ils n'ont pas voulu. Personne n'a voulu exécuter les résolutions des Nations Unies. On a fait des recommandations au niveau du Forum national. Personne n'a voulu les exécuter, mais on a plutôt, à chaque fois, transformé la République centrafricaine en véritable laboratoire, à demander aux gens d'aller aux élections sans désarmement, parce que il faut partir faire finir la transition en sachant que les groupes armés sont là, demander aux gens d'aller faire voter les réfugiés dans des camps à l'étranger, en sachant qu'ils n'ont pas réussi tout le recensement à l'intérieur du pays, etc. Précipiter le programme pour dire nous voulons finir la transition, en sachant que du point de vue des résolutions des Nations Unies, rien n'a été fait, ni pour désarmer, ni pour démobiliser, ni pour protéger les populations civiles. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'avec plus de 10 000 hommes, on tue comme ça, devant toutes ces forces-là, plus de 20, 30, 40 personnes, on parle de 60 maintenant, et puis des centaines de blessés et de destructions. Ça veut dire que la mission des Nations Unies n'a pas réussi.
Catherine Samba-Panza a-t-elle une responsabilité dans la situation actuelle, selon vous?
Je ne vois pas. Enfin, je ne juge pas sa responsabilité. Je sais qu'elle est humaine. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Vous lui privez son armée pour remettre de l'ordre en disant que l'armée centrafricaine est sous embargo. Vous la primez de faire exploiter les ressources nationales pour permettre d'avoir des économies et puis entretenir le pays et sauvegarder la nation. Et puis vous lui demandez de faire quel miracle?
Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Conséquences humanitaires graves dans le bassin du lac Tchad provoquées par les violences de Boko Haram. L'ONU compte déjà 2,5 millions de personnes déplacées. Pour en parler, Manassé Aboya-Ndong, professeur de sciences politiques à l'université de Douala au Cameroun.
La zone du bassin du lac Tchad est une zone extrêmement difficile à escalader. C'est une région aride où les conditions de vie au quotidien sont toujours difficiles. Vous savez que c'est une zone qui est toujours en proie à une sécheresse assez aiguë, très tendue. De même que pendant la saison de pluie, c'est une zone qui est toujours frappée d'inondations. Donc on peut comprendre que, faute d'un développement conséquent, quand il y a un événement inattendu, conjoncturel comme Boko Haram, il va de soi que la situation humanitaire devient une situation catastrophique parce que favorable à la débandade, favorable à des conditions de vie extrêmement difficiles pour les populations déplacées.
Est-ce que les pays concernés n'ont pas des moyens suffisants pour des réponses appropriées à cette crise humanitaire?
C'est davantage la situation créée par des zones de non-droit. Vous savez que l'extrême nord du Cameroun, qui avait le parc de Ouaga, avait toujours eu par le passé à abriter des braconniers qui venaient tuer les gardes forestiers et semer la mort sur leur passage, les morts de paysans, des forces de l'ordre. En réalité, la pauvreté qui s'est agglutinée à côté d'une zone de non-droit a favorisé effectivement la propagation de ce genre de situation. Naturellement, cela va de pair avec une répartition inéquitable de la bonne gouvernance. Donc on peut comprendre que ce soit des zones négligées qui, face à la montée en puissance du terrorisme et de l'insécurité transfrontalière, soient le terreau propice de ce genre de crise, comme nous sommes en train de le vivre, la crise humanitaire dans la région du bassin du lac Tchad.
Il y a 2,5 millions de personnes déplacées, dont 2,3 millions d'entre eux sont des déplacés internes. Peut-on parler d'une population sacrifiée?
C'est une population qui est dans la tourmente. Vous voyez, du Niger au Cameroun en passant par le Tchad, voire le nord-est nigérien, c'est une région extrêmement prise dans les taux de difficulté. C'est une crise qui va affecter beaucoup plus que 2 millions et demi de déplacés, parce qu'en réalité, c'est une zone qui abrite pas moins de 5 millions d'âmes de part et d'autre des frontières.
Le professeur Manassé Abouya, joint par Eric Manirakiza.
Conflit syrien, les divergences entre Américains et Russes persistent pendant que le groupe État islamique gagne du terrain. Idriss Fall a obtenu l'éclairage de Bara Mikal, directeur de recherche de la Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur.
Cela va faire 5 ans que l'on est dans une guerre qui ne prend absolument pas fin, qui au contraire semble se prolonger et provoquer de plus en plus de victimes. L'une des parties du blocage qu'il y a eu le long de ces dernières années, d'un côté, certains acteurs étaient prêts à s'accommoder du régime syrien, voire de la présence de Bachar al-Assad, et d'autres personnes estimaient qu'au contraire, la condition sine qua non pour arriver à un processus de paix et à un renouvellement des perspectives serait de mettre de côté Bachar al-Assad.
Qu'est-ce qui devait être la priorité alors? Est-ce que c'est le départ de Bachar al-Assad ou bien combattre le groupe État islamique?
Moi, je crois que la lutte contre l'État islamique doit être prioritaire. C'est effectivement cette formation qui est problématique en ce sens que d'un côté, elle ne représente absolument pas les Syriens et de l'autre part, c'est une organisation qui a des méthodes barbares qui, de toute façon, sème la zizanie et le chaos plus qu'autre chose. La question de Bachar al-Assad, pour sa part, devra se poser un jour, bien sûr, mais je crois que, étant donné qu'insister sur un départ d'ores et déjà de Bachar al-Assad ne fait que renforcer ses méthodes et renforcer son attachement au pouvoir, et étant donné également que Bachar al-Assad a des alliés de poids, comme la Russie, comme l'Iran, ainsi que comme quelques milices, dont le Hezbollah libanais.
Même l'opposition syrienne, elle est fragmentée, et même certains d'entre eux, c'est des islamistes connus, comme le Front al-Nusra.
L'opposition syrienne a été fragmentée depuis le début, malgré ce que certains médias ont vendu comme image, aussi bien pour la coalition des forces syriennes que pour la fameuse armée syrienne libre, qui finalement ne valent pas grand-chose en termes de poids politique ou de poids militaire. Avec le pourrissement de la situation, on a vu également l'émergence de formations radicales, peut-être que Jabhat al-Nusra, qui finalement est franchise d'Al-Qaïda en Syrie. Même les États-Unis, d'ailleurs, se sont ralliés à l'idée selon laquelle on ne pourrait pas faire entièrement fi du régime pour bâtir un processus de transition.
Bara Mikal, directeur de recherche de la Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur. C'est la fin de cette édition?
Oui, bien sûr. Et il faut remercier Joselle Morissin qui a dirigé la mise en onde, assistée de Misha Dubinsky à la console. À la présentation, Chérubin, Gabi Dorsil et Claire Morin-Gibourg.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.